On retrouve Nathanaël Vitran pour la revue de la presse. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et à la une, Donald Trump, un an après.
Ouais, c'est un doigt d'honneur qu'a choisi Libération pour illustrer ses 12 premiers mois de la présidence Trump aux États-Unis. Sur l'angle de ce majeur brandi à la face du monde, le drapeau américain et le visage reconnaissable du milliardaire à la tignasse orange. Au pays du capitalisme, note le journal, l'Amérique démocrate organise la riposte et renoue avec le terrain. Certes, aucune figure n'émerge encore pour représenter le camp progressiste en 2020, mais dans un pays en campagne électorale permanente, d'autres échéances politiques approchent. En moyenne, note un spécialiste interrogé par Libé, le parti au pouvoir perd 24 sièges lors des midterms, les élections de mi-mandat. Un chiffre qui suffirait aux démocrates pour retrouver la majorité à la première chambre. Ce sera plus compliqué au Sénat, même si l'élection surprise en décembre d'un démocrate dans l'Alabama face à un candidat républicain accusé d'agression sexuelle sur mineurs a fait retomber à une seule petite voix la majorité des républicains. Mais l'arithmétique électorale cette année n'est pas favorable au camp démocrate au Sénat. Sur les 33 sièges remis en jeu en novembre, note le journal, la grande majorité, 25, sont occupés par des démocrates, dont 10 dans des États remportés par Trump en 2016. Mais c'est en dehors des partis traditionnels que la résistance s'organise le plus efficacement. Et des dizaines de manifestations seront organisées dans tout le pays pour le premier anniversaire de la Women's March, la marche des femmes.
Donald Trump nous rassure la croix, qui est en bonne santé cognitive.
Oui, les tweets rageurs, les provocations peu diplomatiques, les discours parfois incohérents du président américain avaient semé le doute ces dernières semaines sur la bonne santé du dirigeant de la première puissance mondiale. La Maison-Blanche a donc publié un bulletin de santé qui, pour prouver que tout tourne rond, s'appuie, raconte le journal catholique, sur le score de 30 sur 30 de Donald Trump au test MoCA. Sauf que ce test n'a pour seul but que de dépister d'éventuels troubles liés à la maladie d'Alzheimer. Il faut aussi recopier un cube, reconnaître un lion, un rhinocéros ou un dromadaire, ou encore dessiner une horloge indiquant une heure précise. Nous voilà rassurés, ironise la croix, Donald Trump saura reconnaître un rhinocéros si d'aventure il en croise un sur un terrain de golf. Il se peut effectivement que Donald Trump ne soit pas fou, mais ce n'est pas ce test qui aurait pu le révéler.
Le Figaro revient sur les relations entre Emmanuel Macron et l'armée.
Et le président français doit présenter ses vœux aux armées aujourd'hui à Toulon, et il entend renouer le fil après des débuts difficiles. Le 14 juillet dernier, rappelle le journal, Emmanuel Macron avait sèchement mouché le chef d'état-major des armées sur fond de querelles budgétaires, rappelant que le chef des armées, eh bien, c'était lui. C'est sous la forme, plus que sur le fond, que cela avait choqué. Le chef de l'État avait peut-être sous-estimé la sensibilité des militaires, bien connu la sensibilité des militaires et le soutien dont ils bénéficient aujourd'hui dans l'opinion publique. Les Français savent à quel sang ils doivent leur sécurité, explique le Figaro. Pour mieux se rabibocher, rien ne vaut un geste d'affection et le président devrait ainsi lever le voile sur la loi de programmation militaire couvrant la période 2019-2025 et sur les efforts financiers qui seront alors consacrés. Bref, se réjouit le Figaro, le psychodrame de l'été semble loin.
Les Échos consacrent un large dossier à une autre folie, celle planétaire cette fois, la folie du Bitcoin.
Oui, la crypto-monnaie dont les cours se sont envolés, passant de 1000 dollars en janvier 2017 à 5000, puis 10000, puis 15000, 20000. Une véritable fièvre spéculative qui commence d'autant plus à inquiéter les autorités qu'elle n'est soumise à aucun État, aucune banque centrale. Alors, faut-il y voir un nouvel or économique ou une bulle sur le point d'exploser? Le journal économique soulève le capot et explique que Bitcoin s'appuie d'abord sur une technologie révolutionnaire, une manière sûre et décentralisée de sécuriser les transactions. Au-delà des férus d'informatique, Bitcoin a aussi et surtout séduit au départ les libertaires, les anarchistes. Mais voilà, Bitcoin est rattrapé par son succès et la crypto-monnaie fait désormais l'objet d'une fièvre spéculative, particulièrement au Japon et en Corée où les investisseurs représentent désormais la moitié des échanges mondiaux. Pire, pour ceux qui avaient choisi Bitcoin pour des raisons idéologiques, note les Échos, Wall Street a récemment adoubé le Bitcoin. La banque d'affaires Goldman Sachs a été la première à annoncer qu'elle allait se lancer dans le trading de Bitcoin. C'est difficile de savoir où s'arrêtera cette folie, mais une chose est sûre pour le quotidien économique, même si le Bitcoin disparaît un jour, il sera remplacé par d'autres crypto-monnaies mieux adaptées au monde de demain et aux besoins des utilisateurs. La bulle Internet a bien fini par exploser au début des années 2000, comme le présidaient les Cassandre, mais elle nous a laissé en héritage Amazon, Google et Uber.
Et puis une histoire de mariage pas tout à fait comme les autres, hein, pour terminer.
Ouais, c'est le Figaro qui raconte cette histoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler, Juliette, du club très fermé des Thousand Miles, les 1000 miles, ces couples qui profitent d'un voyage en avion pour s'envoyer en l'air un peu plus littéralement. Il va peut-être falloir songer à un autre club, moins libertin, celui-là. Un steward et une hôtesse de l'air ont profité d'un vol pour se marier en plein ciel. Et ils n'ont pas été mariés par n'importe qui, puisque c'est le pape François en personne qui a officié. Le couple s'était porté volontaire pour faire partie du vol qui emmenait le pape de Santiago à Iquique, au Chili. Cela fait 10 ans qu'ils sont mariés civilement. La cérémonie religieuse n'avait pas pu avoir lieu, puisque l'église, ont-ils expliqué, avait été détruite par un tremblement de terre quelques heures avant la cérémonie. Et comme c'est souvent le cas pendant les déplacements de personnalité, ils en ont profité du vol pour faire un selfie avec le Saint-Père. S'en est suivi un court échange au cours duquel ils ont expliqué leur situation. Le pape ne s'est visiblement pas offensé d'apprendre qu'ils vivaient dans le péché, qu'ils avaient déjà 2 enfants. « Vous voulez vous marier, tu es sûr ?» Et hop, ni une ni deux, il a pris leurs mains, béni leurs alliances et les a mariés au nom de Dieu.
Et voilà, finalement tout ça est très convenable. Me voilà rassurée. C'était la revue de presse de Nathanaël Vitran sur Radio France Internationale.